Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons ce soir la mémoire de la scène du Seigneur. Au jour de sa passion, le Seigneur affirme « Nul ne prend ma vie, c'est moi librement qui la donne. » Et je vous disais dans l'homélie dimanche que l'on peut être un peu étonné d'une telle déclaration du Seigneur, puisqu'on le voit passif, être prisonnier, escorté par les gardes. On le voit couronné d'épines, on le voit même cloué sur le bois de la croix. « Nul ne prend ma vie, pourtant on va lui prendre. Nul ne prend ma vie, c'est moi librement qui la donne. » Au soir du jeudi saint, anticipant le sacrifice qu'il va offrir de sa vie sur le bois de la croix, voilà que le Christ va instituer le sacrement de son amour. La seconde épître que nous avons entendue de l'apôtre saint Paul est le plus ancien écrit du Nouveau Testament qui nous rapporte l'institution de la Sainte Eucharistie. La lettre que le grand apôtre adresse aux Corinthiens est donc bien antérieure, même à l'évangile de Marc, qui prend place aux alentours de l'an 60-64. C'est donc saint Paul qui, le premier, nous rappelle que la nuit où le Seigneur fut livré, entouré donc de ses apôtres en ce lieu choisi, du Cénacle, eh bien voilà qu'il va prendre le pain, le vin, et instituer le sacrement de l'Alliance nouvelle. Pendant ce temps, ce soir-là, au temple de Jérusalem, l'on a entendu toute la journée l'égorgement des agneaux. C'est la Pâque du Seigneur. Le temple de Jérusalem anticipe par ses sacrifices l'unique sacrifice que le Christ va venir offrir sur ces mots de Jean le Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Eh bien, le voilà, qui, à l'avance, en agneau envoyé par Dieu pour le pardon de nos péchés, va instituer le sacrement de son amour. Avant l'institution de la Sainte Messe et celle qui la précède du sacerdoce, que nous fêtons aussi aujourd'hui, deux sacrements intimement mêlés, puisque le Seigneur a voulu confier ce mémorial aux apôtres et les apôtres eux-mêmes aux évêques, aux prêtres que nous sommes, pour célébrer les saints mystères de la messe. Avant cela, le Seigneur Jésus a fait le travail de l'esclave. Le travail de l'esclave, du serviteur le plus humble, est, lorsque l'on accueille les invités, d'aller laver les pieds de ses invités. Le Seigneur l'a même précisé. « Même si l'on a pris un bain, répond-il à l'apôtre Pierre, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier, si ce n'est les pieds. » Même si les routes peuvent être pavées, les chaussures ne sont point fermées, elles sont ouvertes. Et puisque l'on ne mange pas assis sur des chaises, mais allongé sur des banquettes, voilà que les pieds sont non seulement visibles, mais puisque l'on va former un cercle autour de la table sur ces banquettes, ben voilà que les pieds des uns vont être près des têtes des autres et que l'on comprend qu'il vaut mieux avoir les pieds propres. Alors ce n'est pas notre culture, ce ne sont pas nos manières. Eh bien, voilà que le Seigneur va prendre l'exemple du service le plus humble. C'est pourquoi Pierre est un petit peu interloqué. « Ce n'est pas vous, Seigneur, qu'allez nous laver les pieds. Je vais vous laver les pieds. » Car c'est toujours l'inférieur qui doit, dans cette culture, laver les pieds du supérieur. Eh bien, voilà que le Seigneur donne un exemple. Il dit bien « Vous aurez à vous laver les pieds les uns des autres. » Il a même affirmé à l'apôtre Pierre et bien qu'il fallait accepter d'être lavé par le Christ si on voulait avoir part à son héritage. Se laver les pieds est l'image donc de la miséricorde de Dieu. De ce Dieu qui s'est abaissé au jour de son incarnation, car lorsque l'on est Dieu dans la toute-puissance divine, c'est quand même un très très grand abaissement que de devenir homme. Voilà que le Dieu éternel devient temporel, il entre dans le temps par son incarnation. Voilà que celui qui est tout-puissant mesure dans sa nature divine, par son humanité, toute cette puissance divine qu'il tient cachée. Eh bien voilà que le Seigneur continue cet abaissement. Il va non seulement vouloir laver les pieds des apôtres, mais il va être abaissé même jusqu'à la mort la plus infâme, la mort sur le bois de la croix. Vraiment, mes amis, nous comprenons, particulièrement ce soir, que Dieu nous aime et qu'il ne réagit pas avec nos manières. Car non seulement Dieu vient à notre secours, il vient à notre rencontre pour nous sauver du péché, mais en plus, il accepte le sacrifice de sa vie. Nul ne prend ma vie, c'est moi librement qui la donne. Une fois qu'il a donc ainsi lavé les pieds des apôtres, comme nous avons à laver nos âmes pour le recevoir dans la Sainte Communion, voilà que le Seigneur, au cours de ce repas, va prendre le pain. Le pain non fermenté, c'est la Pâque du Seigneur. Les agneaux rôtis, les herbes amères ont été consommées, c'est l'heure des psaumes, de l'action de grâce. Le Seigneur prend le pain et dit « Ceci, le pain que je tiens dans ma main, ceci est mon corps, le corps que les apôtres voient ce soir-là, un corps qui est livré pour vous. » Le Seigneur anticipe son sacrifice. Il va être livré au bois de la croix. « Nul ne prend ma vie, c'est moi librement qui la donne. » Voilà que le Seigneur institue sa présence réelle dans le Saint Sacrement de son amour. De même, avec la coupe, après le repas, eh bien voilà qu'il va dire « Ceci, le vin contenu dans cette coupe, ceci est mon sang versé pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et sous la houlette de l'apôtre Pierre et de ses successeurs, à travers le mystère du temps et la vie de l'Église, l'Esprit Saint conduisant l'Église vers la vérité tout entière, nous confessons avec notre Église sœur orthodoxe la réelle présence du Seigneur dans la Sainte Communion. Ce n'est pas un symbole de sa présence, comme disait le curé d'Ars. Il est là. Il est là dans le sacrement de son amour. Lorsque nous communions, nous recevons le corps mort et ressuscité du Seigneur Jésus. C'est aussi quelque chose de très juif que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, que cette distinction du corps d'un côté et du sang de l'autre. Ce n'est pas notre culture. Pour la tradition juive, si le corps est séparé du sang, il s'agit d'un cadavre, parce que le sang est le principe de vie. Or, si le corps est avec le sang, voilà qu'il s'agit de la vie. C'est ainsi que l'on est vivant dans la tradition. Le Seigneur a donc pris le pain, mais pour ne pas qu'on pense seulement que je recevrai le Seigneur Jésus le crucifié, celui qui a rendu son dernier souffle, mais que je reçoive tout autant le Dieu de vie et de vie éternelle, voilà que le Seigneur a pris et le corps et le sang pour bien manifester qu'il est vivant, réellement présent dans l'hostie sainte. Alors, avec les bergers, comme au jour de la nativité, nous l'adorons avec nos pauvretés. Nous devons accepter de nous laisser laver par le Christ qui est la miséricorde. Il vient laver nos péchés, il vient laver nos fautes. C'est ce que voit Saint Jean dans l'Apocalypse. Ceux qui viennent de la grande épreuve, nous dit-il, et qui sont maintenant dans la gloire du ciel, eh bien voilà qu'ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Nous aussi, nous étions de petits enfants. Notre âme a été lavée dans le sang de l'agneau au jour de notre baptême. Et nous avons entendu dans la première épître, au livre de l'Exode, justement, combien Dieu devait véritablement nous laver avec le sang qui était badigeonné sur les portes pour nous préserver, pour nous protéger. Eh bien, au jour du baptême, voilà que nous avons nous aussi été lavés, plongés dans la miséricorde de Dieu. Mais malheureusement, les péchés que nous actualisons et que nous commettons après ce baptême appellent tout autant cette miséricorde de Dieu. Que nous dit Notre-Dame à Lourdes, dans l'apparition qui est au centre, lorsqu'elle fait jaillir la source ? Allez à la source, boire et vous lavez. C'est-à-dire, eh bien voilà qu'il faut laver nos fautes dans le sang de l'agneau. Il est l'agneau victorieux, l'agneau crucifié, l'agneau dont Saint Isaïe nous dit qu'il est muet, il n'ouvre pas la bouche. Homme de douleur, de souffrance, nous l'entendrons demain, il ne ressemblait même plus à un homme, homme de souffrance et de douleur. Eh bien voilà que le Seigneur, eh bien, institue ce sacrement pour que nous puissions, il pense à chacun d'entre nous, nous sommes la multitude pour laquelle il veut que tout cela soit fait en mémoire de lui, comme les apôtres au soir du Jeudi Saint, comme l'Église naissante au Cénacle dans l'attente de Dieu le Saint-Esprit, comme l'Église des premiers siècles et celle d'aujourd'hui, nous vivons de l'unique sacrifice du Christ. Par lui, voilà que nous recevons le pardon de Dieu dans le sacrement de la confession et dans le sacrement eucharistique, nous le recevons lui-même. Vous rendez-vous compte à quel point nous sommes aimés. Le Seigneur dit bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Eh bien voilà, ce qu'on aime. Nous sommes chacun aimés du Seigneur et il se donne à nous dans le sacrifice de la croix. Et il prend les devants comme le Seigneur nous l'a enseigné dans la parabole du fils prodigue. On l'appelle du fils prodigue, c'est une maladresse de l'histoire. Le Seigneur Jésus veut nous parler de ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Nous, nous regardons le fils prodigue, celui qui revient parce qu'il a péché, parce qu'on s'identifie au fils prodigue. Mais voilà que Jésus, lui, veut nous parler du Père. Eh bien, le Père, souvenez-vous, il reconnaît au loin son fils, qui ne revient pas avec la superbe avec laquelle il est parti, mais avec cette contrition, la tête baissée, on l'imagine. Il le reconnaît. Il ne connaît ni le jour ni l'heure où celui-ci va revenir. Il prend les devants parce que l'amour prend toujours les devants. C'est ce que le Seigneur fait au soir de sa passion. Il prend les devants, pensant à chacun d'entre nous en cet an de grâce 2025 pour qu'il demeure présent au milieu de nous. Présent au Saint-Sacrement, comme nous allons l'accompagner pour le reposoir en cette nuit très sainte où le Christ va être livré aux mains des hommes. Mais il demeure également présent, présent lorsque nous le recevons dans la Sainte Communion. On me dit parfois, monsieur le curé, vous êtes prêtre, vous êtes sans doute plus près du bon Dieu. Ben, j'aimerais. Mais nous le sommes tout autant, mes amis. Nous ne pouvons pas être plus près de Dieu que lorsque nous le recevons dans la Sainte Communion, puisqu'il descend en nous pour établir sa demeure. Alors on l'accueille avec la pauvreté des bergers, on l'accueille avec l'action de grâce des mages, on lui offre tout le bien qui vient finalement de lui. Alors nous recevons cette vie divine. Eh bien voilà que le Seigneur vient illuminer nos âmes ce soir. Et comme à chacun des apôtres, il nous invite à laver nos péchés, à laver nos fautes. Et il nous dit à chacun, n'aie pas peur, quoi que tu aies fait. Si je n'ai pas fait lapider Marie-Madeleine la pécheresse, je ne vais pas te lapider pour tes fautes. Le désir de Dieu, c'est de nous relever de nos fautes et nous permettre d'avancer vers lui, vers la vie éternelle. C'est donc dans l'action de grâce ce soir que nous remercions le Seigneur pour le don qu'il a fait à son Église de demeurer présent. Présent par le sacerdoce, présent par ce sacrement eucharistique. Puisse donc la bienheureuse Vierge Marie nous aider à toujours méditer la vie de son Fils et à toujours nous préparer à bien le recevoir, ainsi soit-il.